Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous abordons le sujet des charismes, thème souvent abordé dans nos médias, enfin dans les médias chrétiens. C'est au numéro 799, dans le grand sujet de l'Église, Temple de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint semble donner des grâces qu'on appelle charisme, et au numéro 799, il y a une distinction qui est faite entre charisme humble et charisme extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux rappeler d'une part qu'est-ce que c'est que les charismes, et puis quelle est la différence entre un charisme humble et un charisme extraordinaire?
Alors, le mot charisme dans son étymologie signifie d'abord une grâce. C'est-à-dire une grâce au sens le plus général, à tel point que Saint Irénée, que nous évoquions dans une émission précédente, dit « là où sont les charismes de Dieu, là il est bon d'apprendre la vérité ». Donc c'est quand même très fort, c'est pas rien. Et comme lieu pour apprendre la vérité, il cite comme charisme de Dieu la hiérarchie. Alors ça nous s'étonne, parce que nous on a l'habitude de dire que l'Église est hiérarchique et charismatique, et on ne les confond pas. C'est-à-dire que petit à petit, le mot charisme a fini par signifier non plus seulement une grâce de Dieu, mais une grâce donnée gratuitement sans qu'elle soit nécessaire au salut. On a distingué la grâce gratis data, la grâce donnée gratuitement en plus, comme beauté pour le bien du corps, et la grâce gratum facens, c'est-à-dire la grâce qui rend gracieux pour le salut éternel. Et c'est ça qui a permis une espèce de spécification qui s'est faite progressivement entre charisme et, je dirais, grâce habituelle, qui est quand même la sainteté, la grâce habituelle, la grâce active, c'est la sainteté. Alors que le charisme, c'est une chose fort utile pour le corps, il est orienté au corps, il donne de la beauté au corps, mais n'est pas nécessairement aussi, je dirais, nécessaire que la grâce qui nous rend gracieux, parce que celle-là, si on ne l'a pas, on est perdu, on n'est plus en Dieu. Alors que le charisme est comme une décoration supplémentaire pour le bien de tous. Oui. Il est orienté au bien de tous. C'est ça qui est la grosse différence. Et on comprend très bien à ce moment-là qu'il y ait des charismes multiples et variés chez les chrétiens, des charismes de service, des charismes, je dirais, tout simplement de travailler dans le corps du Christ. Par exemple, quelqu'un est chantre, c'est un véritable charisme. Quelqu'un a un charisme très humble de service de nettoyage de nos églises, de préparation des fleurs. Ce sont des petits charismes, mais c'est pas rien, c'est pour la beauté du rayonnement de ce qu'est l'Église, oui, faire organiser des chants, organiser un orgue, essayer de savoir jouer un instrument de musique comme l'orgue, c'est charismatique. Par contre, on parlera de charisme extraordinaire quand on voit plus directement l'action, je dirais, surnaturelle du Saint-Esprit, et vous avez des charismes donc tout à fait étonnants, comme le charisme incendium amoris, quelqu'un qui a le cœur si chaud que ça se voit comme à l'extérieur, comme Saint Philippe Néri qui avait le cœur si chaud que ça dilatait même les parois de son thorax. Et au moment de son autopsie après sa mort, on a vu que les parois de son thorax étaient dilatées tellement son cœur était dans cet incendium amoris, cet incendie du cœur qui caractérisait ce grand saint. Vous pouvez avoir l'absence de sommeil, vous pouvez avoir l'inédit, le jeûne absolu après une vision de transfiguration, comme ont souvent les saints, des larmes de sang, des lévitations, le corps se soulève au-dessus du corps, la bilocation, on pense à Padre Pio qui pouvait être à deux lieux différents à la fois. Vous avez la hiérognosie, c'est-à-dire la connaissance des choses sacrées, comme reconnaître les vraies reliques des fausses reliques. Oui. Parce qu'il peut y avoir des erreurs au cours de l'histoire où on a cru qu'on avait des bonnes reliques, mais elles ne sont pas vraies. Donc c'est très utile d'avoir des gens qui connaissent les vraies reliques. J'avais connu comme ça le frère d'un moine de Maïlis qui savait reconnaître les bonnes reliques des mauvaises reliques. Je l'ai emmené, je me souviens, à Montpellier, dans Notre-Dame des Tables, à chaque hôtel, il disait ça, c'est vrai.
Ah bon, ça,
ce n'est pas. Donc c'était très utile. Bon, vous avez la carte diognosie qui est plus rare, c'est la connaissance des cœurs. Un certain saint, comme notre Seigneur Jésus lui-même, avait la connaissance des cœurs. C'est quelque chose qui est très élevé. On pense à nos maîtres de l'ordre à l'époque de Saint Pédis qui avait ce charisme et qui pouvait dire à quelqu'un, mademoiselle, faites bien attention car je crois que le Seigneur vous appelle à devenir clarisse, par exemple. Et ça se réalisait. Donc c'est assez extraordinaire, cette cardiognosie. On peut être aussi en lien constant avec son ange gardien, etc. Et puis, on a la liste de tous ces charismes que saint Paul donne quand il parle au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, de la diversité des dons spirituels, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais dit-il, à chaque fois, c'est le même esprit. À l'un est donné un discours de sagesse, à un tel autre un discours de science, à un autre de foi, à un autre les dons de guérison, à un autre les prophéties, le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, les diversités de l'interprétation. Mais tout cela, dit saint Paul, c'est l'unique et même esprit qui opère, distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il l'entend. C'est très beau, 1 Corinthiens 12.
Oui, donc beaucoup de sortes de charismes. Et est-ce que tout le monde reçoit-il des charismes? Est-ce qu'on peut être sûr que chacun, que ce soit extraordinaire ou ordinaire, humble, mais est-ce que tous, on peut essayer de chercher, trouver quel est le charisme qu'on a reçu? Ou est-ce que c'est vraiment en fonction de la bonne volonté de l'Esprit-Saint, et il peut ne pas donner de charisme à certaines personnes?
Oui, bien sûr, il peut y avoir seulement la grâce gratum faciens qui à elle seule suffit, puisque le fait de l'avoir suffit pour être sauvé. Donc on n'a pas besoin, je dirais, nécessairement d'avoir un charisme. Mais c'est vrai que les charismes nous unissent les uns et aux autres. Et le pape Saint Jean-Paul II disait: de par leur nature, les charismes sont communicatifs et engendrent une affinité spirituelle particulière entre de nombreuses personnes. Par exemple, certains auront le charisme d'appartenir à cette grande famille des dominicains. On se sent en esprit de famille. D'autres carmélites, d'autres seront franciscains, etc. D'autres bénédictins. Il y a des familles spirituelles et il y a un ressenti qu'on appartient à la famille. Et c'est de l'ordre du discernement. Ça ne se fait pas du premier coup. Il y a des étapes, justement, pour sentir un futur dominicain. On lui demande de rentrer dans un noviciat pour vérifier. Après, si ça se passe bien, il peut prendre l'habit. Après, si on voit qu'il se maintient dans cette affinité pendant un an, il va prendre les premiers vœux, puis des vœux définitifs au bout de quelques années. Bref, il y a tout un itinéraire pour que cette affinité soit vérifiée, non seulement dans le cœur de celui qui demande à rentrer dans un ordre, mais en même temps que son entourage puisse certifier en disant « si, si, il est bien de notre famille ». Il a cette affinité qui s'est inscrite dans son cœur. On peut dire qu'il a le charisme dominicain.
Justement, c'est une question importante, c'est parce que certaines personnes pensent avoir un charisme et vont arriver dans une église ou dans une ville en disant « écoutez-moi, j'ai un charisme ». Comment reconnaître si un charisme est authentique? Comment faire pour que cette personne ne se fourvoie pas en pensant qu'elle est habitée par l'Esprit Saint? Et comment faire pour que d'autres non plus ne se fourvoient pas en disant il faut l'écouter, c'est elle qui dit, qui parle au nom de l'Esprit Saint? Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'erreur?
Alors je crois que le 800 et le 800 du catéchisme que nous sommes en train d'étudier répond bien à cette question. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Et ce « tous les membres » est important parce que c'est eux qui vont aider à, dans le fond, discerner si c'est vraiment un vrai charisme ou pas. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ, pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit-Saint et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. Et j'ajouterais selon l'humilité, que si quelqu'un dit « coucou, coucou, moi j'ai plein de charismes et je suis super charismatique, etc. », je commencerai tout de suite à avoir quelques doutes la vérité de ce charisme, parce que charité et humilité vont de pair, comme dit saint Augustin, et l'un rime avec l'autre. Et le deuxième paragraphe, 801, c'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission au pasteur de l'Église. Voilà un bon critère, la soumission à l'autorité. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Un jour, comme ça, il y avait saint Joseph Cupertino qui était en lévitation, et le pape le voit en lévitation, il dit « Au nom de l'obéissance, Joseph, je vous demande de redescendre. » Il est redescendu aussi net de sa lévitation, et le pape a dit « Ça va, c'est un bon charisme. »
C'est un bon charisme, oui. Merci frère Edouard.
À bientôt, au revoir.